Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, ici David, animateur principal de la deuxième saison 2014-2015 sur Elle la Radio. Pour ce deuxième magazine, nous avons étudié les sujets suivants. Pour la rubrique Société, le droit de l'homme dans le monde, présenté par Umaima, Siyem, Hakim, Sami et Younous. Pour continuer avec la rubrique Micro-trottoir, la société de consommation, présentée par Shaima, Imen, Faiza et Tanousia. Nous suivons avec la rubrique Collège, la violence à l'école, présentée par Léa, Yasmine, Simon, Calvin et Sami. Suivi de la rubrique Environnement, les réfugiés climatiques, présentée par Sandy, Malvina, Antonio et Nadir. Et pour finir, avec la rubrique Loisirs, les réseaux sociaux et vie privée, présentée par Julien, Elisa, Sébastien et David. Maintenant, je vais vous laisser avec le sujet, les droits de l'homme dans le monde, et vous verrez que ce droit n'est pas vraiment respecté dans tous les pays.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un texte qui date du 26 août 1789. Ce texte comprend tous les droits naturels et individuels de l'homme. Cette déclaration a été instaurée après que l'Assemblée des États généraux ne se soit réunie pour résoudre le problème financier dans lequel la France était plongée. Le peuple en avait assez de vivre au service des nobles. Cette déclaration a supprimé tous les droits féodaux, rendant tous les hommes égaux entre eux, qu'ils aient une origine différente, une religion différente.
Bien que cela fasse 2 siècles que la Déclaration des droits de l'homme existe et malgré cela, elle reste bafouée. Il y a de nombreux exemples de non-respect de ces droits comme la peine de mort, la maltraitance, la torture, les prisonniers d'opinion, la censure, les discriminations. Le travail des mineurs, l'esclavage moderne, mais nous nous sommes intéressés à l'esclavage moderne.
L'esclavage a été aboli depuis 1848, mais il existe encore. En effet, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont soumis à l'esclavage moderne. Ce sont souvent des personnes sans défense qui sont obligées de servir des personnes sans pitié qui les font travailler sans cesse dans les champs, les fabriques, les mines, les plantations, les maisons, les ateliers ou les bordels. Tomber dans l'esclavage moderne peut avoir plusieurs causes. Esclave pour dette, victime de négriers modernes, travail forcé, esclavage sexuel, mariage forcé, esclavage traditionnel et travail exorbitant des enfants. Être esclave, c'est être considéré comme un objet, être traité d'une manière inhumaine. En France, l'esclavage domestique, les ateliers clandestins, la mendicité forcée et la prostitution forcée sont considérés comme des formes d'esclavage. Au nom d'une religion, d'une opinion politique ou d'une simple façon de penser, des personnes peuvent transformer des opposants à leur manière de penser en esclaves tels que les 223 lycéennes kidnappées par Boko Haram au Nigeria. Quel était le tort de ces jeunes filles? Juste vouloir aller à l'école? Cependant, la lutte contre l'esclavage moderne continue. Les employeurs d'esclaves sont condamnés et des campagnes sont menées.
5 pays concentrent à eux seuls 61% des personnes exploitées par l'esclavage moderne. L'Inde, où existe toute forme d'esclavage moderne, concentre 14,3 millions de victimes devant la Chine, 3,2 millions, le Pakistan, 2,1, l'Ouzbékistan, 1,2 et la Russie, 1,1. Suivent le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Bangladesh et la Thaïlande. Les 3/4 des victimes seraient en Asie, mais aucun continent n'est épargné. Ainsi, 3 femmes terrifiées et profondément traumatisées ont été libérées le 25 octobre dernier après avoir été retenues comme esclaves pendant plus de 30 ans dans une maison au sud de Londres. La France, qui se classe au 139e rang sur 162 pays analysés, abriterait 8500 personnes réduites en esclavage.
Outre l'esclavage moderne, la torture est un autre exemple de non-respect des droits de l'homme. Au Mexique, la pratique est généralisée dans toutes les corporations policières, l'armée et la marine. La torture est un acte par lequel on inflige une souffrance à une personne afin de lui soutirer des aveux.
Pour appuyer nos arguments, nous avons interviewé un des membres de l'association Amnesty International, Martine Couteau, afin de voir comment nous pouvons agir pour les droits de l'homme dans notre ville.
Qu'est-ce qu'est Amnesty International?
C'est un mouvement mondial, indépendant, et qui travaille pour que les droits de l'homme ou les droits humains soient respectés partout.
Depuis quand êtes-vous implanté à Dreux?
On a créé un groupe à Dreux en 1977.
Faites-vous des actions dans les écoles? Dans quel but?
Oui, bien sûr, on fait des actions dans les écoles. Et le but, c'est toujours le même, hein, c'est que les droits humains soient respectés. Donc on pense que plus on en parle jeunes, donc à des publics jeunes comme vous, et bien plus ça va rentrer dans vous, et après, les droits humains, quand ils ne seront pas respectés, et bien ça va vous faire réagir. Par exemple, cette année, on avait une exposition sur le Mexique qui a circulé dans plusieurs établissements de Dreux. Donc, soit on intervient directement dans des classes à la demande de professeurs, hein, on est habilité pour ça, ou bien alors on a des expositions qui circulent, ça tous les ans, on a ces expos pour les jeunes.
Si les élèves veulent agir pour défendre les droits de l'homme, que peuvent-ils faire?
Vous pouvez essayer de fonder un groupe pour respecter les droits de l'homme. Hein. Par exemple, j'ai été dans un collège, on avait un petit club où on pouvait, entre les deux heures, on apportait des cas, différents cas, et ils pouvaient écrire. Ou bien, même s'ils n'écrivent pas, c'est, je pense, sensibiliser, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Ça, c'est vraiment le plus important. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, Amnesty, l'éducation aux droits de l'homme. Parce qu'on pense que quand les jeunes connaissent ça, eh bien, ils pourront pas laisser ces atrocités qui continuent à se passer dans le monde sans réagir. Et donc, nous, notre but, c'est ça, c'est que faire réagir les gens, parce qu'on sait qu'il y a que comme ça que les gouvernements, on pourra peut-être les aider à changer de politique, parce que la torture, toutes les violations des droits humains, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Et puis, on peut pas le laisser faire, surtout.
Comment les lettres peuvent-elles avoir une influence?
Eh bien, déjà, la première influence, c'est que c'est beaucoup de lettres arrivent pour un même cas, pour une même personne. Donc, ces lettres, elles arrivent chez les présidents, les premiers ministres. Vous voyez, là, ici, j'ai une action urgente, par exemple, pour le Bangladesh. Donc, on en envoie une au premier ministre, une au ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui s'occupe de la police. Et ces copies-là sont envoyées à l'ambassade, les copies de ces lettres. Donc, voilà, on a l'ambassade du pays qui reçoit tout ça déjà, tu vois. Donc les ambassades, bien sûr, ils communiquent avec le pays. Et puis plusieurs dirigeants des pays sont touchés. C'est une action sur les gouvernements, hein, pour qu'ils prennent conscience et surtout qu'ils changent de politique. Parce que des violations terribles sont commises dans différents pays. Il y a la peine de mort est appliquée encore dans 58 pays actuellement. Il y a 100 pays dans lesquels on a répertorié des cas de torture. 96 pays où la liberté d'expression est bafouée. Des enfants soldats, c'est pareil, ça c'est quelque chose de terrible. Enfants, vous voyez, de votre âge, soldats. Donc on a beaucoup de travail encore à faire. Ces chiffres, justement, c'est ce qu'on dit, tu vois, Amnesty, ces chiffres nous indignent. Et ben alors, il ne faut pas que ça fasse que de nous indigner, il faut que ça nous mette en route. Donc vous, à votre âge encore, vous êtes des citoyens en formation, dirons-nous. Donc une fois que vous serez vraiment adulte, ben là, je pense que vous pourrez agir en conséquence. Et c'est ça qui est très important pour nous, parce que, tu vois, moi, je suis vieille, là, maintenant. Mais il faut qu'on arrive à trouver des jeunes. Hein, parce que pour l'instant, c'est un petit peu difficile de trouver des jeunes qui s'intéressent et qui soit acteur, hein, parce que c'est ça, ce qu'il faut, c'est agir. Amnesty, on agit aussi. Hein.
Pourquoi vous avez choisi de travailler chez Amnesty International?
Bah, tu sais, moi, les droits humains, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup porté, tu vois. Je n'ai pas été seulement qu'à Amnesty. Moi, je suis dans, tu vois, j'ai été dans du syndicalisme, par exemple. Tu peux être la même personne, si tu veux, tu peux avoir, j'aime pas bien le mot casquette, mais suivant dans quel contexte tu te situes, tu vois, par exemple, au syndicat, tu fais de la défense du personnel. Bon, c'est peut-être pas de la défense des... Si, c'est les droits humains aussi, parce qu'il y a parfois des choses... Mais j'avais envie, justement, que ce soit plus global, si tu veux. Là, c'est vraiment... Tous les droits humains sont pris en compte à Amnesty. Donc, que ce soit, par exemple, tu vois, des personnes déplacées en ce moment. Hein, ce qu'on appelle les personnes déplacées, c'est ce que, quand ils arrivent chez nous, on les appelle des migrants. Hein. Bon, c'est quand même une grande question aussi, hein, ça, tu vois. On fait aussi pas mal d'actions pour la santé. Je me rappelle plus en quelle année c'était. On avait fait une action au Burkina Faso, parce que je vous ai apporté ça, parce que vous savez pourquoi je me suis intéressée au Burkina Faso pour vous. Oui, c'était une action pour les femmes, c'est ça, pour les qui allaient avoir des bébés. Et justement, la mortalité. Oui. Tu l'avais vu?
Oui, c'est nous qu'on l'a fait.
Ah, c'est vous avez participé, tu vois. Ben, je vous ai apporté. Alors, justement, j'avais essayé. Alors, attends, voilà, tu vois, améliorer la santé maternelle au Burkina Faso. Ça, c'est des choses où justement, il s'est mis en place des dispensaires, pour suivre les mamans, les bébés. Donc, effectivement, tu vois, il y a la santé. En ce moment, il y a une carte pour le Nigeria. C'est au Nigeria, justement, aussi, où il y avait des pollutions. Ils exploitent du pétrole de façon intensive. Et vous savez, quand le pétrole, bon, ça, il y a des émanations. Donc, maintenant, on prend beaucoup de précautions. Nous, quand c'est ici, au Nigeria, ils n'avaient pas pris beaucoup de précautions, ce qui fait qu'il y avait une pollution terrible, des rivières, de l'atmosphère et tout. Donc, Amnesty s'était lancé là-dedans. Donc, voilà, tu vois, on se manifeste sur différents... Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. Hein. Parce que, par exemple, là, pour cette pollution pétrolière, pardon, on était avec bien d'autres actions, bien d'autres organisations. Tu vois, on n'est pas seul, mais on est tous dans le même mouvement, pour la même action.
On va déjà remercier Madame Thuré pour nous avoir impliqués dans cette association. Nous, en fait, on a travaillé 2-3 semaines, ouais, quelques semaines chez Amnesty International pour défendre les droits de l'homme.
On a parlé de Raif Badawi, qui a 30 000 coups de fouet, des femmes du Burkina Faso,
voilà.
Des personnes asiatiques.
À la récréation, on a fait un mouvement, on a fait des affiches. Des élèves du collège Loirement pouvaient venir écrire des lettres pour Raif Badawi ou pour les femmes qui accouchaient et qui mouraient à l'accouchement. Et c'était pour mettre une pression au gouvernement des autres pays.
J'ai écrit une lettre parce que le sujet m'a touchée. Ça se fait pas de se prendre 1000 coups de fouet parce qu'on défend, notre propre liberté d'expression. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Et moi, j'ai écrit une lettre pour soutenir Raif Badawi. Et il y a plein de monde qui l'ont fait aussi. Et je pense qu'ils pensent la même chose que moi.
Moi, je trouve ça vraiment très beau. C'est une initiative qui est formidable. Vous avez vraiment pris conscience qu'il y avait des choses qui se passaient dans le monde qui ne sont pas tolérables. En ce moment, on parle beaucoup d'individualisme et tout. Mais alors là, vous, c'est bien justement ces actions collectives où vous sentez que vous pouvez faire quelque chose. Alors c'est vrai, on est une petite goutte d'eau. Si on se rend compte quand on est jeune, je suis persuadée que plus tard, c'est quelque chose qui va vous allez garder ce respect des droits humains. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je suis émerveillée de ça. Parce que tu vois, l'autre jour, j'étais grande rue, je vois un monsieur qui a bien une cinquantaine d'années, parce que tu as vu mon âge, il vient me voir, il me dit bonjour. Bon, alors, j'ai reconnu son sourire, je ne savais plus son nom ni rien, c'était un ancien élève. Il se rappelait qu'on avait fait une action, moi je ne m'en souviens plus très bien, en Amérique du Sud, pour des enfants qui travaillaient dans les mines, et qui c'était terrible. Et je leur avais passé un petit film, on a fait des lettres, tu vois. Et c'est ce qu'il me dit, vous savez madame, je m'en souviens encore. Mais ça, je me dis, voilà, c'est pour ça que c'est très important que vous, dès maintenant, quand vous prenez conscience de ça, c'est après on ne peut plus rester insensible et on agit. Et ça, c'est formidable parce qu'on arrivera à avoir un monde avec un petit peu moins d'exactions pour lesquelles les droits humains sont vraiment bafoués. Donc moi, je suis vraiment contente de cette initiative.
Ça nous a plu d'aider cette association. Ça nous a tenu au cœur.
C'est participer, c'est pas aider. Parce que tu vois, nous, on est tous sur le même plan. Tu es une personne humaine, je suis. On est tous des personnes. Et justement, on est tous sur le même plan. Et là, on travaille pour que tous, justement, on soit respectés.
On doit tous se mobiliser pour faire respecter les droits de l'homme.
Ouais, je serais vraiment contente si on arrive à faire rentrer ça dans l'esprit de tout le monde. Merci beaucoup parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des choses qui se font à Dreux et dans ce collège-là. J'ai été dans ce collège aussi un petit peu il y a très longtemps.
En conclusion, les droits de l'homme restent malheureusement peu respectés et des millions de personnes en souffrent dans le monde.
Faire respecter les droits de l'homme à travers le monde est un défi à relever. Heureusement qu'il y a des associations comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, l'AEDH, qui se battent au quotidien pour faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés partout. J'espère qu'un jour, tout le monde respectera les libertés et les droits fondamentaux de chacun. Mais c'est nous, les jeunes, qui créerons le monde de demain. Alors essayons donc de changer les choses en apprenant à respecter les droits de chacun dès le plus jeune âge afin de créer un monde plus juste et solidaire.
Les sujets sur lesquels nous avons travaillé, c'est-à-dire les droits de l'homme, est un sujet qui m'a beaucoup intéressé car c'est important pour savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde.
Les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés dans le monde. Dans certains pays, ils n'existent même pas.
Cette émission m'a beaucoup plu car j'ai appris plus les droits de l'homme.
Je vous laisse avec un micro-trottoir sur le sujet de la société de consommation et vous découvrirez plusieurs avis sur cette consommation actuelle.
La société de consommation, ou plutôt société industrielle de consommation dirigée, a commencé après la Seconde Guerre mondiale et a été développée dans les années 70 pendant l'époque qu'on appelle les Trente Glorieuses. Le terme société de consommation désigne la société dans laquelle les consommateurs sont poussés à consommer de façon abondante. Mais comment est-ce que cela fonctionne? D'abord, cette société a vu le jour grâce à la naissance du taylorisme qui a développé le travail à la chaîne et qui a lancé la consommation car les produits fabriqués en grand nombre sont devenus moins chers et donc les gens ont pu s'acheter des produits qui leur étaient inaccessibles avant. Puis, il y a la publicité qui nous manipule à travers les affiches, la radio, la télévision en nous incitant toujours à acheter plus. Et enfin, l'apparition du crédit et des grandes surfaces ont facilité le développement de cette société.
La société de consommation a de nombreux avantages comme le fait qu'aujourd'hui, on vit mieux car on est mieux équipé. Par exemple, aujourd'hui, quasiment tout le monde a une voiture et l'équipement minimum indispensable comme une gazinière, un réfrigérateur, etc. De plus, comme nous avons accès à des produits beaucoup moins chers, on se fait davantage plaisir. Notamment, on trouve dans presque toutes les maisons des télévisions, des ordinateurs et quasiment tout le monde a aujourd'hui un téléphone portable.
Mais malheureusement, la société de consommation a aussi beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord,
il y a le gaspillage alimentaire et la pollution. Par exemple, selon le site Planétoscope, les Français gaspillent 1,2 à 6 millions de tonnes de nourriture, soit 2 à 100 kg d'aliments comestibles par personne. Et chaque seconde, 38 kg seraient jetés à la poubelle. Pourtant, pour produire des grosses quantités, les agriculteurs polluent l'environnement en utilisant des pesticides et des engrais chimiques. Avez-vous entendu parler du 7e continent ? Vous savez, tout ce plastique que nous jetons tous les jours dans notre belle société de consommation, et dont une partie finit dans les océans. 8 à 10 millions de tonnes déversées par an. Puis, pour produire moins cher, les industriels exploitent les êtres humains et même les enfants. C'est ce qu'a montré une enquête de Cache Investigation sur France 2. On a pu voir des enfants de moins de 16 ans travailler plus de 12 heures par jour, et même la nuit pour fabriquer des smartphones. Enfin, une autre conséquence est que la société est devenue matérialiste, car beaucoup de gens pensent que posséder plein de choses va les rendre heureux, et que le bonheur est purement matériel. Boris Vian le dénonce bien dans sa chanson « La complète du progrès », où les gens se marient par intérêt et non par amour. Le danger est que les biens matériels nous fassent oublier les valeurs humaines, comme la générosité, le partage, l'entraide, la politesse. Et rendre service sans rien attendre en retour.
On a posé des questions à des passants pour savoir ce qu'ils pensent de la société de consommation.
Que pensez-vous de la société de consommation ?
Ça peut être confortable quand on a les moyens de s'acheter ce qu'il faut.
J'en pense que c'est plus que c'était avant.
Je pense qu'on achète beaucoup trop de choses aujourd'hui dont on n'a pas forcément besoin. Et voilà, je trouve ça dommage pour l'environnement, entre autres.
Est-ce que vous avez toujours besoin de ce que vous achetez ?
J'achète ce dont j'ai besoin et je m'en tiens là.
Non, je dois avouer que parfois j'en ai pas besoin.
En ce moment, oui.
Est-ce que vous vous renseignez sur l'origine des produits que vous avez achetés ?
Ah oui.
Oui ?
Oui.
Et comment ils sont fabriqués, etc.
Je prends des articles fabriqués en France.
Oui, j'y fais attention pour voir un peu d'où ça vient et quelle distance et dans quelles conditions ça a été fabriqué.
Et qui se profite.
Et qui se profite.
Est-ce que vous pensez vous faire influencer par la pub ?
Non, franchement, non. Non, non.
Pas le moins du monde.
La société de consommation a-t-elle un impact sur l'environnement ?
Plus qu'évidemment, oui, c'est dommage. Dommage pour la nature, dommage pour les gens. Il y a une différence sociale qui fait que les modes de consommation mettent des écarts entre les gens. Ouais.
En conclusion, arrêtons d'acheter des choses inutiles ou que nous avons déjà, car n'oubliez pas que ces produits que nous utilisons sans doute pas sont fabriqués, par exemple en Chine et au Bangladesh à petit prix, rendus plus chers dans des pays développés. Ils sont parfois fabriqués par des enfants ou des adultes qui ont une vie misérable. Arrêtons de nous faire manipuler comme des marionnettes par la publicité. Et arrêtons de détruire notre planète.
Je pense que les enfants qui sont en Chine ou en Bangladesh sont malades à cause de nous. Et parfois des parents ou des enfants meurent par notre faute. Il y a beaucoup de gaspillage et de pollution dans notre planète. Il faut diminuer tout cela.
Des enfants de 16 ans à peine travaillent dans des milieux inhumains et misérables pour espérer un jour vivre correctement, et cela pour des plaisirs dont nous n'avons pas forcément besoin. Il faut que l'on fasse attention à consommer de manière modérée.
Nous ne devons plus être égoïstes car à cause de nos plaisirs matérialistes, les enfants sont exploités et souffrent. Avant, j'achetais sans réfléchir, mais maintenant, je me renseignerai.
Je pense que c'est à cause de nous que les enfants travaillent dans le monde et qu'ils ont une vie misérable. Nous sommes responsables car nous consommons trop et nous voulons des produits pas chers. Peut-être que si nous consommons moins ou de manière plus intelligente, ils auront plus de travail.
Nous suivons avec la violence au collège et soyez attentifs car ça pourrait être votre enfant.
Le harcèlement est un vrai problème de notre société. Mais qu'est-ce que le harcèlement ? Le harcèlement est une série de violences répétées sur une même personne. Les violences peuvent être verbales, par exemple, des insultes, moqueries, ou alors physiques, comme les coups. Aujourd'hui, plus d'1,2 million d'élèves sont harcelés, mais seulement un enfant sur deux ose en parler. La violence est en hausse de 6% dans les établissements. 5816 dossiers de violence ont été recensés. Le harcèlement scolaire reste la violence la plus répandue. Et il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident parce qu'ils ont été harcelés.
Le pire, c'est que maintenant, le harcèlement est devenu quasi permanent avec les portables, les réseaux sociaux, etc. Et les harcelés n'ont plus aucun répit. Par exemple, Marion, une jeune collégienne de 13 ans, s'est pendue après avoir été harcelée pendant un an et demi. Cette jeune collégienne était harcelée sur Facebook, via SMS, etc. Et comme la plupart des personnes harcelées, elle n'en a parlé à personne parce qu'elle avait honte et peur que ses harceleurs s'en prennent à ses parents.
Les harceleurs choisissent souvent les mêmes types de personnes. Les personnes mal dans leur peau parce qu'elles sont trop timides ou réservées, considérées comme trop petites, trop grosses ou même par jalousie, les premiers de la classe, les personnes timides qui bégayent.
Et puis certains harceleurs ne se rendent pas compte qu'ils font du mal aux autres. Pour eux, c'est un jeu. Comme par exemple Julien, un jeune de 26 ans, qui a témoigné sur le site de Melly News et qui a toujours du mal à avouer qu'il a harcelé quelqu'un. Mais même si les enfants n'osent pas en parler, les adultes doivent rester vigilants. Les professeurs, les parents ne remarquent pas qu'un enfant est harcelé. Pourtant, cet élève change de comportement. Il parle moins et il essaye de moins se faire remarquer.
Les enfants aussi peuvent réagir car il existe un site pour le harcèlement qui s'appelle Agir contre le harcèlement à l'école. Au collège aussi, nous luttons contre le harcèlement dès la 6e avec la quinzaine du Vivre Ensemble.
Avant, je savais qu'il y avait du harcèlement et de la violence. Mais je ne pensais pas que cela puisse avoir de si grandes conséquences comme le suicide. Je vais donc faire bien attention à ce que je vais dire ou faire.
D'après moi, le harcèlement est un vrai problème de société. Il faut tout faire pour empêcher que ça continue. Et puis, je sais maintenant que si je vois un élève se faire harceler, je dois réagir tout de suite.
Pour moi, c'est de la méchanceté gratuite. Elle pense faire ça pour s'amuser, alors qu'il y a des conséquences plus ou moins graves. Certaines filles font des réputations à d'autres filles par simple jalousie, mais ne pensent pas aux conséquences pour la victime.
Je pense que le harcèlement doit être gravement interdit. Il pousse les personnes à faire des choses mal, telles que la mutilation, des dépressions ou encore pire, le suicide. C'est amusant pour la personne qui harcèle, mais pas pour la personne qui se fait harceler. Cela doit cesser et vite.
Je pense que la violence et le harcèlement ne servent à rien. Si je vois des personnes se faire harceler ou taper, je vais intervenir.
Nous allons continuer. Avec les réfugiés climatiques, vous devez certainement vous demander ce que c'est, même moi. Donc ils vont nous l'expliquer.
Le problème des réfugiés climatiques pourrait bien être le défi majeur du XXIe siècle. D'après le Global Estimate du Conseil norvégien, 22 millions de personnes ont dû abandonner leur domicile en 2013 suite à des catastrophes naturelles. 31% de déplacés à cause d'inondations et 69% à cause de tempêtes, ouragans, typhons. Mais qu'est-ce qu'un réfugié climatique ? C'est une personne qui quitte son pays d'origine à cause de catastrophes naturelles.
Toutes les régions sont concernées, mais l'Asie reste la plus touchée avec 19 millions de réfugiés climatiques. Entre 2008 et 2013, 80% des réfugiés climatiques venaient d'Asie. Les pays où l'on trouve le plus de réfugiés climatiques durant les 6 dernières années sont les Philippines, la Chine, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, les États-Unis et le Japon. Selon le rapport du Conseil national norvégien, 40% des catastrophes les plus graves ont eu lieu en Afrique subsaharienne. Le continent risque à l'avenir d'être de plus en plus touché à cause de la croissance forte de sa démographie. Mais sur le long terme, on observe une augmentation du nombre de réfugiés. Sur 40 ans, il y a aujourd'hui 2 fois plus de déplacés dans le monde que dans les années 1970.
La principale raison du nombre toujours croissant des réfugiés est la démographie. S'il y a plus de réfugiés climatiques, c'est tout simplement parce que la population a augmenté et qu'elle s'est concentrée dans des villes dites zones à risque. Néanmoins, la surpopulation n'est pas seule en cause. Il y a aussi beaucoup plus de catastrophes naturelles. On peut observer des tempêtes au niveau du continent américain et aux Seychelles. On note aussi des cyclones au niveau du Sri Lanka, de l'Inde, du Tchad, au Soudan, Kenya et le Mozambique. L'érosion provoque des réfugiés climatiques car les montagnes peuvent se fissurer et tomber sur les habitants.
À long terme, la répartition des populations sera inévitable. Il faudra déplacer de manière préventive les habitants des zones à risque. Le rapport préconise de développer également la planification urbaine, des digues anti-inondations ou des normes de construction pouvant aider à réduire les catastrophes. Les Pays-Bas, dont les 2/3 du pays sont placés sous le niveau de la mer, viennent d'annoncer 20 milliards d'euros pour lutter contre la montée des eaux. La troisième solution consiste à améliorer les systèmes d'alerte aux populations. Il y a encore énormément de progrès à faire, selon François Gimel du Global Estimate.
Les causes principales de leur déplacement sont la désertification. La désertification consiste à détruire les sols dans les zones où il y a peu d'eau. La déforestation, la salinisation, c'est l'eau qui est de plus en plus salée, l'érosion ou divers problèmes de toxicité du sol, dans l'air et dans l'eau. Des causes plus récentes qui, selon le GIEC, groupe d'experts qui s'occupe de l'évolution du climat, devraient s'aggraver, sont les conséquences directes et indirect des modifications climatiques, avec en particulier une montée de l'océan attendue pour les décennies et siècles à venir, sur les 21 villes qui aujourd'hui compteront plus de 10 millions d'habitants. Ce que je pense sur cet exposé est que à cause de l'être humain, la Terre est en train de se dégrader, donc nous nous autodétruisons dans un sens. Vu que c'est l'homme qui est responsable de la dégradation de la Terre, c'est à l'homme de la réparer.
Et pour finir, nous allons parler des réseaux sociaux et vous allez beaucoup apprendre sur qui utilise les réseaux sociaux et comment bien les surveiller.
Bring the action.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette chronique loisir, nous allons vous parler des réseaux sociaux. Car les jeunes consacrent une bonne partie de leur temps libre sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Ils se rendent sur les réseaux sociaux tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Mais déjà, qu'est-ce qu'un réseau social ? Un réseau social est un système de partage d'informations entre des personnes. Être en réseau, c'est être en contact. Les jeunes les utilisent surtout pour chatter, envoyer des messages, soit avec leurs contacts, soit avec des inconnus qui peuvent être n'importe où sur la planète. Nous avons fait des recherches et nous avons vu dans le magazine Géoado datant de 2011 que 57% des collégiens français sont connectés à un réseau social. Et le nombre devient plus important au lycée. Alors nous nous sommes intéressés à notre collège Louis Armand. Nous avons donc réalisé une enquête par le biais d'un questionnaire portant sur les usages de réseaux sociaux. Des collégiens et des adultes portent sur une tranche d'âge de moins 12 ans à plus de 30 ans. On a accepté de répondre à nos questions. Nous avons recueilli 280 bulletins, soit plus de la moitié des personnes du collège à participer au sondage. Nous avons réparti les réponses selon 6 tranches d'âge. Les moins 12 ans, les 12-15 ans, les 15-20 ans, les 20-25 ans, les 25-30 ans et les plus de 30 ans. Puis, nous avons fait des pourcentages pour analyser les habitudes de chacun.
Dans les moins de 12 ans, 48% des personnes utilisent les réseaux sociaux et 52% ne les utilisent pas. 32% des personnes utilisent Facebook, 9% des personnes utilisent les réseaux sociaux de façon violente et 2% sont victimes de violences. Dans les 12-15 ans, 70,12% utilisent les réseaux sociaux et 29,88% n'utilisent pas les réseaux sociaux. Plus de la majorité utilisent Facebook avec 71,95%. 6,9% utilisent les réseaux sociaux de façon violente. 6,9% sont victimes de violence. Dans les 15-20 ans, 89% des personnes utilisent les réseaux sociaux et 11% n'utilisent pas les réseaux sociaux. Une très grande majorité de ces personnes utilisent Facebook car il y a 93%. 10% des personnes utilisent les réseaux sociaux de façon violente, c'est-à-dire qu'ils se croient tout permis sur les réseaux sociaux et n'hésitent pas à insulter. Environ 10% disent avoir été victimes de violences.
Dans les 20-25 ans, 100% des personnes utilisent les réseaux sociaux. La majorité des personnes utilisent Facebook, soit avec un nombre de 75%. Personne n'utilise les réseaux sociaux de façon violente et personne n'a été victime de violence. Dans les 25-30 ans, 86% des personnes utilisent les réseaux sociaux et 14% n'utilisent pas les réseaux sociaux. 100% des personnes utilisent Facebook. 15% des personnes utilisent les réseaux sociaux de façon violente. Mais personne n'en est victime. Dans les plus de 30 ans, 55% des personnes utilisent les réseaux sociaux et 45% ne les utilisent pas du tout. Facebook est le plus utilisé avec 50%. Personne n'utilise les réseaux sociaux de façon violente, mais 10% disent avoir été victimes de violences.
Au total, 77,5% des personnes des questionnaires utilisent les réseaux sociaux. Et on peut constater que ce sont les plus jeunes, que ce soit chez les élèves ou chez les adultes, qui utilisent fréquemment. Ils se connectent aux réseaux sociaux au moins une fois par jour. Le réseau le plus utilisé est Facebook, mais Facebook perd de sa popularité chez les jeunes qui ont moins de 12 ans, dont 22,5% n'en utilisent pas. Le nombre est plus important chez moins de 30 ans. Les raisons des personnes qui n'en utilisent pas sont les interdictions des parents, trop ennuyants ou inutiles, pas assez sécurisés. D'après les bulletins, peu de personnes les utilisent de façon violente, mais ce qui est inquiétant, c'est que certains se disent avoir été victimes de violences sur Internet. Les réseaux sociaux sont un bon outil de communication, un bon passe-temps, mais il ne faut pas oublier que c'est un espace public et qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi ou poster une photo ou vidéo sans réfléchir, car les conséquences peuvent être très graves, comme la pédophilie, le cyberharcèlement. Alors, on conseille, éviter de mettre sa véritable identité ou dévoiler des choses très privées.
Mon opinion sur ce sujet, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se croient tout permis derrière leur écran. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, si chacun n'y met pas du sien. N'oublions pas que les violences peuvent avoir des conséquences très graves, comme des risques de dépression à des risques de suicide.
À mon avis, les réseaux sociaux sont superbes pour communiquer, mais il faut savoir s'en décrocher.
Personnellement, les pourcentages, surtout sur l'utilisation de Facebook, ne m'étonnent pas. Il y a tellement de personnes qui l'utilisent. Même si c'est étonnant que un jeune de moins de 12 ans sur deux utilise déjà les réseaux sociaux. Et le pourcentage de personnes victimes de violences sur un réseau social me surprend, car je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, car j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de violences sur chaque réseau social.
Je trouve que les jeunes ou les adultes sont de plus en plus méchants entre eux. Les insultes et les critiques semblent devenir banales, normales. On doit apprendre à tous vivre ensemble.
Merci de nous avoir prêté attention et nous remercions encore une fois Émilie pour nous prêter son studio d'enregistrement. Merci aussi à Madame Inouski et Madame Bouchard pour ce formidable projet. Et enfin, merci aux élèves de Loire Armand de nous avoir donné leur opinion sur ces sujets et à bientôt pour la prochaine émission et nous nous quittons en musique.
RGC.